Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Comme promis, cette dernière heure de morning est consacrée au jardinage, au jardin. Et on va parler de plein de choses, bien sûr, avec Patrick Makovka qui est avec nous ce matin, qui est là jusqu'à 10h. Patrick, rebonjour.
Bonjour à toutes et à tous, rebonjour.
Ça va bien ?
Très bien, merci beaucoup, ça va bien.
Alors ce matin, on parle de jardinage, on va parler de sapins, de fleurs de Noël, on va parler de tout ce qui fait cette saison du côté des plantations, du jardin. Et vous pouvez poser vos questions dès à présent 00 33 652 300 342. Et si vous deviez acheter votre sapin, attendez et écoutez bien les bons conseils de Patrick qui vont intervenir dans un instant. On va parler de différents types de sapins.
Oui, tout à fait. Voilà. Il y en a quelques-uns.
Jusqu'à 10h sur Phare FM, nous parlons sapin, nous parlons plantes. Bah oui, parce que c'est l'actualité du mois de décembre, Nathanaël.
Exactement. Et puis peut-être qu'en tête, vous avez deux types de sapins. Le vrai, le sapin naturel.
Et
le sapin artificiel. Mais attendez, n'allez pas trop vite, parce que dans le sapin naturel, il y a aussi différentes sortes de sapins. Patrick, on commence par parler du plus classique, peut-être, puisque c'est l'épicéa, ce fameux sapin à aiguille.
Le sapin traditionnel, celui... qui pousse naturellement chez nous, hein, un peu partout en France, et qui a plutôt tendance à disparaître des collections de sapins à vendre pour Noël, parce que, ma foi, il a passé son temps. C'est celui qui perd ses aiguilles, même s'il sent bon,
oui,
même s'il pique très fort. Je pense que potentiellement, on le trouvera bientôt plus sur les marchés de sapins, parce qu'il a été... littéralement...
surexploité
Non, pas ça. Il est dépassé par ce qu'est l'offre d'un sapin Norman, qui est le second. Donc, oui, l'épicéa traditionnel, qui a tendance à disparaître.
Mais alors, il perd plus vite ses épines, peut-être aussi.
C'est 10 jours.
C'est ça le problème.
C'est 10 jours.
Ça
tient pas. Et puis, quand on le trouve, il est souvent pas très harmonieux. Il est tout aplati. Ouais. Il faut l'ouvrir. Ça pique. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est le Norman qui est clairement le roi des sapins, qui est un arbre qui vient du Caucase, pour le coup, mais qui pousse un peu partout en France, dans les Ardennes belges notamment, beaucoup d'ailleurs. Et ce sapin, lui, il a l'avantage de tenir ses aiguilles pendant plusieurs semaines. J'ai envie de dire, il irait presque jusqu'à Pâques.
Ah oui.
Mais bon, non, c'est pas le but. Mais ceci dit, c'est un arbre qui est très costaud. Qui fait l'objet de ces 90% des ventes de sapins aujourd'hui.
Mais alors, quand on dit qu'il peut durer longtemps, il y a peut-être une façon aussi de le garder, ce sapin. On parle souvent du chauffage, attention au chauffage.
Oui, pas près du radiateur.
Alors, cette année, on a été confronté à un phénomène qui s'appelle la sécheresse.
Oui.
Et on a quelques petits doutes sur la tenue de nos sapins, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de France, du Danemark, de Belgique, voire de Finlande. Tous ont souffert d'un manque d'eau passager. Les sapins sont beaucoup plus légers cette année.
D'accord.
Il suffit de le porter. Je l'ai encore fait hier. Et il pourrait y avoir un petit doute sur leur tenue pendant plusieurs semaines. Évidemment que de l'eau, c'est pas mal. Ne pas le mettre à côté d'un radiateur et encore moins à côté d'une cheminée qui est particulièrement déshydratante, desséchante. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir une chute des aiguilles malgré tout. Bon, ceci dit, c'est quand même le sapin le plus costaud.
Le chauffage au sol, c'est un problème, ça, pour le sapin? Il faut le mettre un peu plus en hauteur pour pas qu'il ait la chaleur du sol?
C'est d'où le chauffage au sol.
D'accord.
Il faut juste faire attention aux arrosages. Et ça, c'est valable aussi pour les plantes en pot qu'on a à la maison qui sont posées sur le chauffage. J'ai personnellement un chauffage au sol. Donc, il faut bien suivre les arrosages à un moment de l'année où on n'y pense pas forcément parce que c'est l'hiver. Mais non, il faut le faire quand même.
Patrick Makovka est avec nous jusqu'à 10h sur Phare FM. Qui est Patrick Makovka? Vous ne le savez pas encore. Eh bien, il est jardinier. Il a été avec nous. Il est intimidé, là. Du coup, il est devenu tout rouge. Mais non, il est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Et au mois de décembre, bah oui, on va parler de plantes. Bah oui, on va parler de fleurs. Bah oui, on parle de sapins. C'est absolument incontournable. Vous vous tâtez là encore à vous dire... Bon, est-ce qu'on va prendre un sapin ou pas? Puis on prend quoi comme sapin? On a commencé à en parler là, il y a quelques instants. On a parlé d'épicéa, celui qui sent bon et qui perd toutes ses aiguilles. On a parlé du Norman, celui qui sent rien et qui perd ses aiguilles moins vite. Il y a d'autres sortes de... Ah, j'ai fait un
bien
bon résumé.
Non, très 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 bien.
Il y a d'autres sortes de sapins, Patrick.
Oui, un peu plus confidentiel, mais on les trouve sur tous les marchés de sapins. Je vais vous parler du sapin noble, Nobilis, et c'est un de mes préférés parce que il est très étagé, il est légèrement bleuté et il est parfumé.
Et
ça, c'est assez génial. Donc, c'est un sapin magnifique. Pour moi, c'est le plus beau. Comme il est encore assez confidentiel et qu'il n'est pas produit au même niveau que le Norman, il coûte à peine plus cher. Mais voilà, le sapin noble, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est qu'un sapin noble. C'est magnifique.
Donc, sapin noble ou Nobilis, hein,
Nobilis,
c'est ça?
Nobilis, oui, tout à fait. Ouais.
D'accord.
Nobilis. Vous
demandez, on le
Nobilis,
trouve facilement quand même?
Oui, quand il y a 90 sapins Norman sur un choix chez un revendeur, vous avez au moins une dizaine de Nobilis disponibles. C'est à peu près Le pourcentage des ventes, c'est 10% des sapins sont des nobilis
donc,
aujourd'hui.
Le même prix que le Norman, mais un peu plus
cher.
Mieux réparti, mieux étagé, hein,
ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Et il a une belle odeur.
Ah, une bonne odeur. Sympa. Ouais. Et puis, on va terminer avec des sapins qui sont un peu plus confidentiels. Il y a dans les Ardennes belges et dans les Vosges, le Jura, des productions de sapins Grandis, Abies Grandis, qui est un sapin qui ressemble au Norman, qui tient un peu moins bien et qui est beaucoup moins cher. Il y a aussi le Fraseri, qui est un cousin. On trouve aussi, là où il y a vraiment du choix de sapin, vous arriverez à trouver ces deux essences. Le Grandis et le Fraseri qui tiennent un peu moins bien que le Norman, mais qui sont de magnifiques sapins aussi. Ça fait le choix, quoi. Hein. Mmh.
Alors, forcément, je vais envoyer, comment dire, une espèce de... Comment on peut dire quand on joue aux boules, là, au... Non, je trouve pas le mot. Que... Enfin, en tout cas, je vais tout envoyer valser, ce que vous venez de dire
oh là
à
là
l'instant, Patrick.
Wow.
Bah, parce que le sapin coupé, c'est pas très écologique.
Alors, pour
par rapport
pour,
à, par
vous
rapport
êtes pour le plastique, vous, c'est ça?
Alors, mais non, mais c'est la question que je pose. Ah. Qu'est-ce qui vaut mieux entre les deux?
Eh ben, en première analyse, vous allez dire, ça, couper des sapins, c'est pas écolo, donc je vais prendre du plastique.
Oui.
Donc, j'achète du pétrole. Donc, je suis pas écolo aussi. Donc, comment faire? Moi, je vais vous renvoyer dos à dos. C'est sûr qu'un sapin artificiel, déjà, vous ferez des économies parce qu'une fois que vous l'avez acheté, théoriquement, vous allez le garder pendant plusieurs années. Certes, c'est du plastique, donc c'est issu des raffineries et du pétrole, d'accord. Je vous accorde que pour le recyclage, c'est du métal et du plastique, ça peut se faire, mais on ne voit pas éplucher le sapin.
Oui, pour répartir
pour le remettre le plastique,
à côté. Ouais.
Voilà. Mais bon, c'est quand même écologiquement un impact qui n'est pas très élevé compte tenu du fait que vous allez le garder 10 ans. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, en ce qui concerne les sapins coupés, là, je vous arrête tout de suite. La ressource en Europe, que ce soit dans le Morvan, dans les Vosges, dans les Ardennes belges, on va monter au Danemark, qui est un gros producteur, la Finlande, la Norvège, eh bien, ces pays-là, c'est une ressource qui est renouvelée, replantée. L'Allemagne du Nord, j'ai oublié, du côté d'Offenburg, il y a de grosses, grosses plantations. On coupe, mais on replante. Donc,
d'accord,
c'est complètement géré. On n'est pas dans de la déforestation primaire. Quoi. Ça ne se fait pas. C'est pas possible.
D'accord.
D'accord.
Voilà. 9h21, dans 13 jours, ça sera Noël. Bah oui, allez, on va mettre l'ambiance de Noël, Sandrine.
Oh là là, faut aller chercher un sapin.
Bah oui, on a la décoration, on n'a pas le sapin, mince alors, mais qu'est-ce qu'on va acheter? Heureusement, Patrick est là pour nous conseiller. Alors, on a parlé de différents types de sapins, on a parlé aussi du sapin artificiel. On n'a pas parlé encore du sapin en pot, ça devient la mode. Et on se dit, oui, faut le replanter, comme ça on peut le replanter, etc. Est-ce que c'est une bonne idée, le sapin en pot?
Si on est prêt, oui, c'est une bonne idée. Si on est prêt à faire quelques concessions sur les soins de ce sapin. Parce que si vous rentrez un sapin, allez, on se projette. Le sapin, vous êtes un sapin. Le sapin, en hiver, il peut se prendre un moins 20, un moins 30 sur la tête. Il ne bronche pas.
Oui.
Il est dans le jardin, il est dans la forêt. Et il ne bronche pas, il est bien là, moins 30. Et nous, on va le mettre à plus 20 degrés.
Oui.
Certes, il a des racines.
Ouais.
Je vous rappelle qu'il a poussé dans une pépinière, qu'on l'a arraché, que les racines ne sont pas... complète. Il est dans un pot et il est à plus 20. Et puis peut-être même à plus 25 parce qu'il n'est pas loin d'un chauffage électrique. Donc ça ne va pas, il est complètement chamboulé, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc l'arrosage s'impose, mais surtout quand on achète un sapin en pot, en imaginant qu'on veut pouvoir lui donner une chance de repousser dans le jardin ou dans un parc, eh bien on va le rentrer par palier de température.
D'accord.
Il
ne
peut pas passer d'une température de négative de moins 1, moins 2, moins 5 ou moins 10 si jamais... là où on habite, il fait cette température-là. Peut-être qu'on l'aura dans une semaine, j'en sais rien. De le passer de moins 10 à plus 20, c'est un choc thermique. Nous, on n'est pas bien, le sapin, il n'est pas bien du tout non plus.
Il va être enrhumé.
Complètement.
Ouais.
Et donc, idem pour le ressortir. Il faut passer par des paliers de température, d'autant plus si la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est la plus grande possible. Donc, on va passer par une cage d'escalier, le garage... et puis en 10 jours, 15 jours, on va l'emmener progressivement dehors. Alors certes, on ne pourra peut-être pas le planter, mais il faudra assez rapidement le mettre en terre pour privilégier la reprise et le foisonnement racinaire. Rappelez-vous, on disait à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc si on est en janvier et qu'on a une fenêtre météo qui le permet, on le replante, on met un stimulant racinaire, on met du terreau. Et puis on va le bichonner un peu.
D'accord, mais alors la reprise est 100% garantie?
Pas du tout.
Ah.
Non, pas du tout, parce que vraiment, c'est une super secousse qui se prend dans la tête au moment où on le rentre. Donc je vous ai donné quelques clés pour pouvoir
l'aider à aller mieux.
Voilà. Et puis le séjour à l'intérieur, c'est 10-15 jours, maximum. Alors que le sapin coupé, en général, on le prend au premier dimanche de l'Avent et on tient jusqu'au 5-6
L'épiphanie, voilà, exactement. Ouais. Alors très rapidement, du coup l'arrosage pour ce sympa-là, coupé ou pas coupé, c'est important quand même.
C'est crucial, surtout si on a des ambiances très chauffées. Alors pour les plantes en pot avec les racines, il n'y a pas... C'est un non-sens que de dire qu'il ne faut pas l'arroser. Hein. Mmh. Le but, c'est de le replanter, de le privilégier, la reprise racinaire. Pour les couper, ben,
faut mettre dans un récipient, c'est ça.
Voilà.
Aujourd'hui,
il existe des pieds de sapin qui sont très sympas, avec une pompe, des quatre crochets qui se rabattent sur le pied. Mmh. Et il y a une réserve d'eau au milieu.
D'accord.
Arrangez-vous pour mettre toujours un peu d'eau. Ça permettra de l'hydrater. Certes, il n'y a pas les racines, mais il va quand même pomper un peu de flotte. Et ça sera d'autant plus efficace si l'ambiance est surchauffée dans la maison.
Jusqu'à 10h, on a un invité qui est jardinier, qui s'appelle Patrick Makovka, qui répond à toutes vos questions. On a parlé sapin, mais on va aussi parler plantes et fleurs, Nathanaël.
Oui, alors juste avant de parler des fleurs de Noël, je voulais terminer avec les sapins. On a parlé de différents types de sapins, mais qu'est-ce qu'on fait avec son sapin à la fin? Est-ce qu'il faut le jeter comme ça dans une benne à ordures normale? On en fait quoi? On peut faire du compostage?
Alors personnellement, oui, ce que je vous propose, c'est de composter. Alors, encore faut-il avoir un broyeur, mais vous pouvez broyer et faire du BRF avec, c'est très bien.
Du BRF qui veut dire ?
Du bois raméal fragmenté.
Voilà. C'est une. mais j'ai vu Sandrine qui, du coup, savait pas. Bon, moi aussi, hein. Ouais. J'avoue.
On vous parlera un jour de la permaculture. Allez, on fera une journée, enfin une heure sur la permaculture et le BRF, vous allez voir, ça, c'est quelque chose de fondamental là-dedans. Bon, on peut le broyer, et ça, c'est pour ceux qui ont un jardin et un broyeur, parce que, voilà, il le faut. Pour tous les autres, souvent, dans nos communes, on a la possibilité de le laisser dehors. Mmh. On aura préalablement mis sous le sapin le sac à sapin handicap international qu'on trouve dans toute l'Europe, hein, je vous rassure. Et ce sac à sapin vous permettra de l'emballer et vous le déposez dans la rue, ça évite d'avoir des aiguilles partout. Hein. Mmh. Et ce sapin, potentiellement, peut être ramassé individuellement et recyclé, broyé pour aller dans des sites de compostage. Donc la chose est plutôt bien vue, bien faite. Et bon, c'est la collectivité qui finance tout ça, mais c'est une bonne initiative en tout cas.
Merci, donc voilà, on a tout dit sur le sapin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. 0033 652 300 342. On va parler de fleurs de Noël. On parle de quoi quand on parle de fleurs de Noël, Patrick?
Toutes les plantes qui ont le mot Noël dedans.
C'est quoi c'est les jardineries qui ont mis le mot de Noël derrière ou c'est parce qu'elles sont...
Ça, c'est une bonne question, je ne saurais pas vous répondre.
D'accord.
Non, je pense que... je fais en direct là. C'est simplement des plantes qui ont la possibilité de fleurir presque naturellement à Noël. Mmh. Et forcément, on a fait le rapprochement et on leur a attribué le mot Noël. Donc, il y en a quelques-unes, effectivement.
Alors, on va commencer par le poinsettia, qui est la plus connue, finalement. Hein. On ne connaît peut-être pas le nom.
On peut peut-être expliquer ce que c'est, alors pour les gens comme moi, par exemple, qui ne connaissent pas trop les noms des plantes. Le poinsettia, c'est le petit arbre avec des grosses feuilles rouges.
Ou une plante, une plantation.
Oui, non, c'est une plante, mais ça fait un... Il me regarde bizarre, c'est ça. Oui, non, voilà, c'est en effet une plante. Bien sûr, c'est pas un arbre, mais je veux dire, comme il y a plein de feuilles, là, comme ça, bref.
Écoutez, Sandrine, c'est presque un arbre, parce que si vous allez sous les tropiques, vous retrouverez cet arbre, cette plante, qui va faire 2-3 mètres de haut. Hein. En latin, c'est Euphorbia pulcherrima, c'est une euphorbiacée, donc caractéristique des euphorbiacées. Quand vous cassez une feuille, il y a une laitance blanche qui coule, qui est un peu irritante. Hein,
d'accord.
Mais c'est leur caractéristique. Et voilà, cette plante a une particularité, c'est qu'en période de jour court, tout comme une autre qui est très connue, qui s'appelle le chrysanthème, elle va fleurir. Mmh. Encore que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait des fleurs. Donc, le poinsettia, c'est cette belle plante qu'on trouve au monde de Noël avec des feuilles rouges, qu'on considère être des fleurs, mais qui n'en sont pas. Ce sont bien des feuilles qui vont rougir en période de jour court. Donc, on fausse un peu la donne en augmentant la durée de nuit et elles vont rougir naturellement. Le poinsettia, c'est une magnifique plante, un peu difficile à garder, mais vraiment chouette, quoi. C'est symbolique de Noël, quoi.
Si on veut offrir quelque chose, c'est la plante à offrir.
Ah ouais, complètement.
Phare FM. Phare FM. La radio. Autrement.
Le Positif Morning jusqu'à 10h avec Patrick Makovka, qui est jardinier et qui répond à toutes nos questions. Nathanaël, on a commencé à aborder les plantes et fleurs de Noël.
Exactement. Et puis peut-être comme vous, enfin ou comme Sandrine, vous avez du mal à vous occuper de vos plantes.
Oh.
Et c'est compliqué, hein, parce que même ce qui ne peut pas mourir
meurt quand même.
On a quand même trouvé une plante, le cactus de Noël. On en parlait il y a quelques instants, Patrick. Alors là, on peut l'oublier, le cactus de Noël, il survivra. Hein.
Oui, même...
Alors qu'est-ce que c'est déjà, peut-être déjà dans un premier temps?
Alors, Schlumbergera, avec ça vous allez faire atchoum et puis vous allez dire mais qu'est-ce que c'est cette plante? Schlumbergera ou Epiphyllum, c'était l'ancien nom. Donc c'est vraiment une plante grasse, donc on peut l'assimiler à un cactus, d'où son nom. Mmh. Et c'est une plante qui donc stocke de l'eau. Donc en général, les plantes qui stockent de la flotte, tout comme les cactus, eh bien c'est plutôt costaud. Oui. Donc c'est assez indifférent au manque de soins, n'est-ce pas Sandrine?
Oh.
Donc alors c'est très simple parce que c'est une plante qui fleurit grosso modo au moment de Noël, qui quand elle défleurit au printemps, vous pouvez la mettre tout au long de l'été dehors. Et personnellement, c'est ce que je fais parce que je la mets dans le jardin et je l'oublie. De temps en temps, je lui mets un coup de flotte. Mais
toujours dans un pot alors du
toujours
coup
toujours dans un pot. D'accord. Et oui, parce que c'est difficile de faire autrement. Et je lui donne un peu d'engrais pendant l'été. Et le miracle, c'est quand vous la rentrez aux alentours de la Toussaint, les boutons apparaissent. Mmh. Et plus ou moins, elle est en fleur à Noël.
D'accord.
Voilà. J'en ai deux à la maison, une rose, une rouge. La rouge a déjà fleuri, la rose est en bouton. Donc c'est vraiment très facile et c'est vraiment très coloré. Il y a de la rouge, de la rose, de la blanche, le Schlumbergera, le cactus de Noël.
Schlumbergera ou cactus de Noël.
Ouais, c'est facile. Et vraiment une plante extraordinaire parce qu'au niveau des soins, c'est sans souci. Hein.
Voilà, vous ne savez pas quoi offrir à Sandrine. Et bien maintenant, vous le savez, le Schlumbergera. Donc, une belle plante pour Sandrine.
Merci d'avoir refait ma réputation très rapidement ce matin dans le Positif Morning.
Eh bien, on veut des idées pour Noël, pour offrir ou pour décorer la maison du côté des plantations, Sandrine. Et on parle de fleurs de Noël. Alors, on a parlé du poinsettia, hein, la fameuse plante rouge qu'on offre pour Noël.
L'étoile
quoi,
de Noël.
L'étoile de Noël, c'est ça. On a parlé du cactus de Noël et on va parler de l'élébore de Noël.
La rose de Noël.
La rose de Noël, qui est l'élébore. Hein.
Oui, tout à fait. En latin, c'est l'éborus. Et ça, c'est une plante... Alors, nous étions à l'intérieur pour des plantes à offrir et à garder à l'intérieur. Et là... bien qu'on peut en mettre une ou deux dans la maison, le but c'est vraiment d'offrir une plante magnifique, en fleurs naturellement aux environs de Noël, qui va pouvoir être plantée dans le jardin. On peut la garder 24 heures, 48 heures à l'intérieur, mais le but c'est de la mettre dehors parce qu'elle est vivace.
D'accord.
Et c'est une plante qui peut être blanche, rose, on a des élébores différentes espèces, et certaines sont violettes, roses, rouges, ce sont les élébores orientales. Voilà.
C'est belle photo. Hein.
Voilà.
Oui.
Et ce sont des magnifiques fleurs qui ont un cycle inversé. Donc, elles sont magnifiques, exubérantes au moment où il fait froid.
Mmh.
Ce qui correspond plus ou moins à notre Noël.
Oui.
Et en été, on a bien du mal à les trouver.
D'accord.
Elles fleurissent, elles font des graines. Mais en été, il reste une feuille, deux feuilles parfois. Donc, le cycle est complètement inversé. Elles se réveillent dès qu'il y a les premiers frimas hivernaux.
En jardinière, ça marche du coup, ça?
En jardinière, ça peut marcher. Mais la première année, le but, c'est vraiment d'aller la planter dans le jardin.
D'accord.
Parce que vous aurez difficilement une deuxième floraison en 2019-2020 avec une élébore en pot ou en jardinière.
Donc différentes couleurs, hein. Donc blanche, on voit ça. Alors là elles sont mouchetées, j'allais dire, rouge ou rosé.
C'est joli, hein.
C'est vraiment joli. Et c'est une floraison hivernale.
Hivernale. Pas très connue cette élébore finalement, cette rose de Noël ou...
Alors pour moi j'ai envie de dire que si, parce qu'elle est tellement, particulière.
Hein.
Elle est là où toutes les autres dorment. Eh ben moi je la connais bien forcément et tous les jardiniers la connaissent bien. Mais c'est une idée cadeau originale.
On n'y pense pas forcément.
Ah ouais. Pour ceux qui ont un jardin, un pot à mettre dehors, mettez une élébore.
Alors, j'allais parler d'entretien parce que, ou d'arrosage, parce que généralement, il faut arroser, mais c'est l'hiver, donc ça peut geler. Comment on fait au niveau d'arrosage, pour l'arrosage, pour ce genre de plantes?
Alors, quand ces plantes ont soif, elles ont des feuilles, elles ont des fleurs, donc elles transpirent. Donc, ça veut dire qu'en hiver, il faudra arroser à un moment de la journée où le gel n'est pas présent. Quand il ne gèle pas, le problème ne se pose pas, on lui mettra de l'eau.
D'accord.
Si elle est sur un balcon protégé et qu'il ne pleut pas, on arrose. Quand il fait moins 10, on fait attention, on ne va pas arroser parce que ça va augmenter la pression de l'eau gelée sur les racines. Donc, la plante, elle coince. Mais dès qu'il y a une fenêtre météo à midi où il fait 2-3 degrés, mettez un coup de flotte.
Donc, elle
appréciera.
Elle craint pas s'il y a du moins 10 pendant une semaine.
Si elle est en pot, c'est pas bon.
Ouais.
Parce qu'elle préférerait être dans le jardin et là, la terre fait tampon, littéralement.
Mm.
Mais elle est faite pour aller dehors. Et... Dedans, ça va pas aller. Quelques jours, parce qu'on en vend, qu'on destine à l'intérieur, c'est quelques jours. On a coupé les feuilles, il y a plein de boutons, on profite d'une belle floraison, mais le but, c'est vraiment d'aller la mettre dehors.
Juste pour avoir une idée de la tête que ça peut avoir dans le jardin, si je puis dire, c'est une fleur qui est très courte, qui est très petite.
30-40 cm de haut.
D'accord, qui monte un peu.
Voilà. Et c'est une couverture de boutons et de fleurs. C'est vraiment un bouquet de fleurs.
Mmh.
D'accord.
Très belle idée en tout
Génial.
Cas. Je sais quoi offrir là pour certaines personnes.
Ah oui,
coup,
moi
là,
aussi, c'est... ça me donne des idées.
Oh non, 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 pas déjà la fin. Presque la fin, si, si. Dernière ligne droite pour notre invité ce matin. Patrick, jardinier, est notre invité. On a parlé de sapins, les différents types de sapins. Maintenant, vous en savez un peu plus. Si vous avez arrêté cette émission, ne vous inquiétez pas. Elle sera disponible en replay sur notre site internet avec tous les bons conseils de Patrick. Alors, on a parlé donc de sapins, de fleurs de Noël. On va retourner un petit peu dans notre jardin ou peut-être les balcons. Avec le froid qui revient, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Hein. On a eu vraiment un automne vraiment assez chaud, ouais. Quelques gelées très rapidement, et puis là à nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire finalement dans le jardin ou sur le balcon avec nos plantes? Faut vraiment les protéger?
Alors pour l'instant, je dirais il faut avoir le matériel sous le pied. Il faut que ce soit prêt. Mmh. Vos voiles d'hivernage, votre chanvre, tout ça, ça doit être prêt dans un coin du garage. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'en général, l'hiver, si tant est qu'il arrive, il est plutôt sur janvier-février, voire début mars, que sur novembre-décembre. Voilà. Certes, la météo, le climat, il y a des choses qui bougent. On n'a plus nos repères, en tout cas les plus anciens, nos parents, on a perdu nos repères météo par rapport à la saison. Donc, il faut quand même se préparer. Les plantes en pot. Personnellement, j'ai des agrumes. Alors les agrumes, je les ai rentrés. Mais tant qu'il fait 2, 3, 4 degrés, vous pourriez les laisser dehors. Vous les rentrez, ces agrumes, là où il y a de la lumière. Ça pose pas de souci. 7, 8, 10 degrés, pas dans le salon à 22, parce que ça n'ira pas. Le mimosa, vous pouvez le laisser dehors. Si vous avez du bougainvillier, il doit être rentré. Si vous avez un bananier planté dans le jardin, lui, il doit être protégé, emballé, parce que de toute façon, il ne peut pas, c'est que de l'eau, un bananier, tout compte fait. Même si on en voit de 3-4 mètres dans certains jardins chez nous, eh bien, il faut pouvoir l'hiverner. Et là, il est protégé par du chanvre et un voile et quelque chose de costaud, parce que ça doit faire un mètre de diamètre au moins.
On en parlait un peu plus tôt, c'est le problème de la pluie. Hein, il n'a pas eu beaucoup plu. Donc, du coup, est-ce que les sols sont assez remplis d'eau? On a eu de la pluie à un moment donné. Comme il fait bon, est-ce qu'il faut continuer d'arroser? C'est peut-être la question qu'on peut se poser.
Alors, là, on a eu suffisamment d'eau pour mouiller les sols, donc faire en sorte que les plantes puissent absorber un peu d'eau, notamment pour tous les végétaux qu'on a plantés. Certes, les nappes phréatiques ne sont pas remplies. Hein. Vous avez différentes régions de France et d'Europe qui sont toujours en déficit. Dans le Jura, français, suisse, ça coince. Donc, il faut, pour l'instant, au niveau de l'eau, pour ce qui est dans votre jardin, on ne s'inquiète pas parce qu'il y a assez d'humidité et de pluie.
D'accord, merci beaucoup Patrick. On va rappeler qu'on a parlé donc de sapins, différents types de sapins. On a comparé le sapin artificiel, le sapin naturel, les différences, lequel est le plus écologique. On a parlé de l'Hypicea, du Norman, du Nobilis, du Fraseris, du Grandis. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, vous pourrez trouver en replay sur notre site internet farfm.com.